Il est 22h sur France Culture et c'est donc l'heure des actualités avec Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir. Gérald Darmanin assume sa politique de fermeté. Devant la commission des lois de l'Assemblée, le ministre de l'Intérieur a tenté de justifier le repli du gouvernement sur la loi sécurité globale. Pour lui, il n'y a pas de divorce entre la police et la population. Dossier dans ce journal avec Rosalie Lafarge et le commentaire de notre invité, Blandine Brocard, députée Modem du Rhône. Nicolas Sarkozy dénonce des infamies à la reprise de son procès pour corruption. L'ancien président rejette en bloc les multiples procédures judiciaires dont il fait l'objet. À la fin de ce journal, nous écouterons le prix Goncourt 2020, Hervé Le Tellier, récompensé en visioconférence pour son dernier roman, L'Anomalie. Faut-il parler d'une reculade du gouvernement face aux manifestations massives du week-end dernier? En tout cas, Emmanuel Macron a demandé à sa majorité de réécrire totalement l'article 24 de la proposition de loi sur la sécurité globale. Le texte adopté pourtant en première lecture à l'Assemblée prévoyait de pénaliser la diffusion malveillante d'images des forces de l'ordre en intervention. Ce repli gouvernemental touche directement Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur est devenu la cible de l'opposition. Il est sommé de s'expliquer sur les dérapages de certains policiers. Deux fonctionnaires ont été incarcérés la nuit dernière pour le passage à tabac du producteur Michel Zecler. C'est dans ce contexte chahuté que Gérald Darmanin a été entendu tout à l'heure par la commission des lois de l'Assemblée. Rosalie Lafarge, le ministre, est resté ferme sur ses positions en dépit des critiques venues de son propre camp.
La gauche réclame la démission du préfet Lallemand, la droite s'inquiète du désordre et du mépris du Parlement, mais la majorité n'est pas en reste. Elle aussi demande des comptes au ministre de l'Intérieur, Alice Thourot, co-rapporteur LREM du texte Sécurité globale, par exemple.
Toute faute commise par un policier ou par un gendarme doit être sanctionnée très sévèrement. C'est une question de principe, mais c'est surtout, monsieur le ministre, une question de confiance entre les Français et leurs forces de l'ordre.
Mais il n'y a pas de problème de confiance à en croire le ministre.
Je ne partage pas. Mais profondément pas, le fait qu'il y a un divorce entre la police et sa population.
Si, insiste la majorité par la voix modem d'Erwan Balanant.
Tous les citoyens doivent avoir confiance, et c'est ça le problème, monsieur le ministre de l'Intérieur. On ne peut pas avoir seulement 60% des Français qui ont confiance en la police.
Et c'est encore le modem qui appuie. Laurence Wisniewski n'hésite pas à demander au ministre de reculer.
Je vous demande, monsieur le ministre, si le gouvernement peut envisager un abandon pur et simple de l'article 24 de la proposition de loi sécurité globale dès cette semaine.
Mais Gérald Darmanin n'est pas du genre à se dédire. Le ministre de l'Intérieur en est convaincu. Les forces de l'ordre ont besoin d'être mieux protégées aujourd'hui.
C'est ma conviction, ça l'était hier, ça l'est aujourd'hui. Et je vais vous donner un scoop, ça le sera demain. Et c'est pas très grave si, en attendant, les choses sont difficiles.
Pas question pour le ministre non plus de lâcher le préfet Lallemand. Il lui renouvelle toute sa confiance. Gérald Darmanin reste finalement fidèle à lui-même, droit dans ses bottes. Mais il évoque tout de même la possibilité d'un problème structurel dans la police, la nécessité de renforcer la formation des forces de l'ordre et la possibilité de réfléchir à réorganiser l'IGPN, la police des polices.
Rosalie Lafarge, merci. Invitée de ce journal, Blandine Brocard, députée Modem du Rhône, membre de la commission des lois. Bonsoir.
Bonsoir.
Blandine Brocard, est-ce que vous approuvez le recul du gouvernement sur ce fameux article 24?
Alors, je ne sais pas si c'est à proprement parler un recul. Moi, j'étais tout à fait favorable dès la première écriture de ce fameux article 24. Comme l'a dit et répété le ministre Darmanin tout à l'heure lors de son audition devant la commission des lois à l'Assemblée nationale, on a un devoir, c'est celui de protéger ceux qui nous protègent. Donc voilà, c'était le but initial de cet article 24. D'aucuns ont considéré qu'on mettait à mal la liberté de la presse. Il n'en est rien quand on le lit bien. Il y a eu une première reformulation par un amendement gouvernemental juste avant l'étude du texte dans l'hémicycle qui le disait à nouveau noir sur blanc. Donc moi je reste comme le ministre tout à fait droit dans mes bottes. Cet article 24 permet à la fois d'assurer tout notre soutien aux forces de l'ordre tout en maintenant cette liberté de la presse tout aussi fondamentale.
Oui, mais vous voyez bien qu'Emmanuel Macron souhaite la réécriture totale de cet article 24. Donc, de ce que vous nous dites là, il va falloir remettre l'article sur le métier.
Alors, de toute manière, j'allais dire, le travail parlementaire permet justement, à travers la fameuse navette parlementaire qui voit un texte défiler à la fois de l'Assemblée nationale, puis au Sénat et à nouveau à l'Assemblée nationale, en passant par les différentes commissions des deux chambres, tout ce travail parlementaire, justement, permet cette réécriture. Je ne suis pas du tout dans les petits papiers du président de la République, qu'on entende évidemment également ce qui s'est passé samedi, tout à fait. Il n'empêche, je voudrais préciser que c'est une petite partie de la population qui a manifesté samedi et une infime partie.
130 000 personnes tout de même dans toute la rue, ça fait, dans toute la France, ça fait tout de même des manifestations relativement importantes.
Absolument, absolument. Et ces manifestations sont très importantes. Je trouve que manifester pour la liberté de la presse, quoi de plus beau dans notre démocratie, dans notre République française. Il n'y a pas de sujet là-dessus. En revanche, vous ne me direz pas le contraire, vous ne me contredirez pas en sachant pertinemment qu'il y a une instrumentalisation de la part de certains pour lire justement de manière malhonnête cet article 24. Donc après, ça dégénère, que l'exécutif et le président de la République l'entendent tout à fait. En revanche, je le dis et je le redis, le Parlement est tout à fait dans son rôle à effectivement écrire, réécrire, faire attention, et je fais confiance encore une fois à nos institutions démocratiques pour arriver à un texte qui soit équilibré, mais qui pour moi, dès le départ, l'était déjà.
Blandine Brocard, Gérald Darmanin, transfuge des Républicains, incarne l'aile droite de la majorité présidentielle. Est-ce que cette aile droite a pris le pas sur l'aile gauche de la majorité aujourd'hui ?
Alors je ne considère pas du tout que ce principe de protéger ceux qui nous protègent appartient soit à la droite, soit à la gauche. Ce sont des principes républicains et pour moi, il n'y a aucune étiquette qui peut être mise là-dessus.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire, il y a des personnes dites de gauche, mais prenons par exemple Manuel Valls, qui est aussi très ferme là-dessus. Donc pour moi, ça n'appartient absolument pas à la droite ou à la gauche, le fait de vouloir, encore une fois, protéger ses forces de l'ordre. Enfin, il faut quand même savoir qu'il y a un certain nombre de personnes qui dont le but, c'est de casser du flic. Et c'est absolument terrible. Moi, j'en rencontre très souvent. J'ai à la fois des gendarmes et des policiers sur ma circonscription. Il n'y a pas longtemps, j'étais avec ce qu'on appelle les nuiteux. C'est-à-dire, j'ai fait 21h, 6h du matin avec des policiers. J'ai vu à la fois ce qu'ils vivaient. Ils m'ont parlé du coup très librement quand on passe du temps comme ça ensemble. Quand un policier vous dit qu'il a peur de rentrer chez lui, qu'il a peur pour sa famille, qu'il n'ose pas, qu'il dit à son gamin à l'école de ne surtout pas raconter à ses copains que son père ou que sa mère est flic, alors que je considère que c'est un honneur de porter cet uniforme, pour moi il y a un véritable problème.
Pour vous, ce qui s'est passé la semaine dernière, le tabassage du producteur Michel Zecler ne remet pas en cause le lien de confiance entre la police et la population ?
Et écoutez, je condamne aussi fermement, évidemment, ce qui s'est passé avec Monsieur Zecler, c'est évident, comme je condamne tout à fait tous ceux qui cherchent encore une fois à vraiment tabasser les flics. Il y a des images absolument terribles qui ont eu lieu samedi. On voit vraiment des personnes dont le but est de blesser et de passer à tabac ces personnes. Donc, dans un sens comme dans l'autre, de toute manière, toute violence est absolument condamnable. En ce qui concerne le lien qu'il y a entre les Français et les forces de l'ordre, je considère, et c'est ce que j'entends autour de moi, que ce lien est très fort.
Merci Blandine Brocard, députée MoDem du Rhône. Merci d'avoir été l'invitée de France Culture ce soir. Nicolas Sarkozy s'est montré très offensif lors de la reprise de son procès dans l'affaire dite des écoutes. « Je ne reconnais aucune de ces infamies avec lesquelles on me poursuit depuis 6 ans », a déclaré l'ancien président. Jugé pour corruption, Nicolas Sarkozy est accusé d'avoir promis une promotion à l'ancien haut magistrat Gilbert Azibert. Gilbert Azibert présent sur le banc des prévenus, de même que Thierry Herzog, l'avocat de l'ex-chef de l'État. Pour ce procès, c'est une avocate, maître Jacqueline Lafont, qui assure la défense de Nicolas Sarkozy. Et cet après-midi, elle a dénoncé l'enquête controversée menée en parallèle de l'instruction. Le compte-rendu d'audience d'Anne Fauquemberg.
Pour Jacqueline Lafont, l'avocate de Nicolas Sarkozy, il y a eu en effet deux enquêtes. Une instruction qui a conduit à ce procès pour corruption et trafic d'influence et une enquête préliminaire cachée à la Défense pendant 6 ans, insiste-t-elle. C'est l'enquête dite des fadettes révélée par la presse en juin dernier et qui devait permettre de trouver la taupe qui renseignait Nicolas Sarkozy et Thierry Herzog pour leur dire qu'ils étaient sur écoute. Cette enquête, classée sans suite, a été relancée en 2016 artificiellement, explique Jacqueline Lafont. Pourquoi a-t-elle été disjointe à la procédure? Est-il acceptable que cette enquête ait été cachée et quelles en sont les conséquences juridiques, adresse-t-elle au tribunal. L'avocate aux cheveux noirs s'appuie sur plusieurs documents qui montrent que ces deux enquêtes reposent sur les mêmes faits, notamment une note du 11 juin 2014 d'un vice-procureur du PNF, un acte projeté lors de l'audience. La feuille est certes rayée, mais il est clairement demandé de lier les deux procédures. Droite, devant les juges, d'une voix douce et affirmée, elle rappelle aussi que l'inspection générale de la justice, qui a rendu un rapport sur cette enquête controversée, a reconnu un stratagème procédural. Quelle morgue pour la défense, poursuit son confrère Hervé Thémine, bras au ciel. L'avocat de Thierry Herzog dénonce, lui, avec force, la violation du principe de l'égalité des armes, fondateur d'un procès équitable. Puis il s'interroge sur l'absence d'audition menée dans le cadre de l'enquête parallèle. Quant à Dominique Allegrini, l'avocat de Gilbert Azibert, il enfonce le clou. C'est le dévoiement de la puissance publique, selon lui. Comme ses deux autres confrères, il plaide la nullité de toute la procédure.
Anne Fauquemberg depuis le nouveau palais de justice de Paris. Au Mali, Al-Qaïda a revendiqué plusieurs attaques simultanées contre des forces étrangères et maliennes. Parmi les cibles, la force française Barkhane. Ces attaques n'ont pas fait de blessés, juste des dégâts matériels, mais elles montrent que la menace djihadiste ne faiblit pas dans le nord Mali. Les précisions de Nathalie Hernandez.
En moins de 2 heures, une quinzaine d'obus et de roquettes ont visé les 3 bases militaires. La première, à 6h30 heure française, a visé Gao, là où se trouve l'essentiel de la force Barkhane. Une demi-heure plus tard, c'était au tour du camp de Kidal, que partagent les Français et la MINUSMA, qu'une dizaine d'obus sont tirés. À Kidal, où l'attaque avait été précédée par le passage d'un groupe d'hommes à moto, selon l'AFP. Enfin, c'est au tour de Menaka d'être ciblé par des roquettes. L'état-major des armées assure que le dispositif d'alerte et de réactivité a à chaque fois bien fonctionné pour mettre à l'abri les soldats. Aucun militaire n'a en effet été blessé. Seule la base de Kidal a subi des dégâts matériels importants côté onusien. Malgré les succès de Barkhane ces derniers mois, avec notamment la mort d'un des chefs militaires d'ACMI, une telle coordination est toutefois une première et un signal préoccupant. D'autant que le JNIM, affilié à Al-Qaïda, a revendiqué dans la foulée ces attaques, ce qui là aussi est inhabituel.
Nathalie Hernandez, merci. Les troupes azerbaïdjanaises sont entrées ce soir dans le district de Latchin, dans le Haut-Karabakh. Il s'agit du 3e district rétrocédé à l'Azerbaïdjan après sa victoire sur les séparatistes arméniens. La Russie avait imposé un cessez-le-feu le 9 novembre dernier après 6 semaines de combats. Retour en France, et pour la première fois dans l'histoire du Goncourt, c'est en visioconférence que le plus prestigieux des prix littéraires français a été décerné aujourd'hui. Le lauréat Hervé Le Tellier pour son roman L'Anomalie, paru chez Gallimard. Hervé Le Tellier est le président de l'Oulipo, l'ouvroir de littérature potentielle. Et son roman raconte un événement qui se produit 2 fois, un vol Paris-New York avec les mêmes passagers. Et ce n'est pas le prix Goncourt qui va changer sa façon d'écrire.
Je ne suis pas tout à fait certain que ma vie d'auteur va être différente. Je ne suis pas sûr que ça va orienter mes prochains livres. L'idée que ça puisse changer la vie d'auteur, ça veut dire que on va commencer à écrire différemment. Et je ne vais pas écrire différemment. J'ai toujours eu l'habitude de faire des livres tous différents les uns des autres. Donc je ne suis pas du tout certain que le fait d'avoir un livre qui a connu un très grand succès, enfin qui va connaître un très grand succès grâce au concours, va me conduire à faire un livre, disons, sur le même modèle. Je ne suis pas du tout certain de ça. En même temps, j'ai eu un très grand plaisir à écrire ce livre, un plaisir très différent par rapport au livre précédent. Donc ça peut aussi, effectivement, me permettre d'avoir un peu un plus libre cours par rapport à mes projets. Ça libère, hein, d'une certaine façon. On a toujours assez naturellement un double sentiment, un sentiment d'abord d'imposteur, parce que on n'est jamais tout à fait certain que le monde de la littérature, contrairement à celui de la course à pied, qui est très strict et où on sait qu'on va plus vite les uns que les autres parce qu'il y a un chronomètre. Il n'y a pas de chronomètre pour la littérature. Donc, d'une certaine manière, la reconnaissance des pairs, l'obtention d'un prix, joue un peu ce rôle de courte validation où on sort de cette idée qu'on est peut-être un imposteur.
Hervé Le Tellier, prix Goncourt 2020, répondait à Benjamin Hilly. Hervé Le Tellier qui sera l'invité des matins de France Culture demain à partir de 8h10. Un mot du temps demain, hivernal dans le nord-est, 4 départements en vigilance orange, neige et verglas. Les Ardennes, la Meuse, la Meurthe-et-Moselle et la Moselle. Sur les autres régions, un ciel couvert et parfois pluvieux, sauf sur le sud-est où le soleil s'imposera. Les températures minimales seront froides, de moins 3 à 0 degrés en général. Et l'après-midi, il fera de 4 à 14 degrés. Du nord-est à la Méditerranée. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Annie Brault.